tuer dans quatre murs. Des pilules, des piqûres, ça va durer des mois. La folie comme seule loi, il faudra que ton angoisse disparaisse si ce pas. Voilà l'intraveineux, la solution à cœur.
Oui, Radio Libertaire, la radio libre de la Fédération anarchiste, et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme presque tous les mercredis. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on poursuit l'exploration du livre Choc de Marc Greenstein, le roman Choc de Marc Greenstein, dont je rappelle un peu la présentation par les éditions Grasset. Alors, c'est un livre qui est paru le 16 octobre 2019. L'auteur, fragilisé depuis longtemps par une tendance dépressive, sombre un jour dans une crise mélancolique aiguë. Il est interné durant presque 6 mois dans un service psychiatrique où on lui administre une thérapie par électrochoc présentée comme anodine. Mais lorsqu'il tente de reprendre pied dans sa vie, il n'a plus de vie. Il est devenu étranger à lui-même, souffrant de graves troubles de la mémoire. Comment faire face au quotidien ? Amnésique dans une société où tout doit être mémorisé. La vie matérielle se dérobe, du code de la porte d'entrée à celui de la carte bancaire, du portable ou de l'ordinateur. La vie familiale, amoureuse, amicale aussi, un homme sans mémoire est un homme radicalement seul. D'autant qu'il ne fait pas bon critiquer aujourd'hui les dangers des thérapies de choc à nouveau à la mode et leurs défenseurs au pouvoir dans les hôpitaux. Ce voyage, aux limites, aurait pu se prêter à un traitement sentimental, pathétique et larmoyant, faisant appel à la compassion du lecteur. L'auteur a choisi une toute autre voie, un texte littéraire à la fois érudit, burlesque et paradoxal, composant les mémoires d'un amnésique. Érudit parce que l'auteur dévore toute la littérature psychiatrique sur l'histoire du traitement par électrochoc en s'interdisant tout recours à Internet et en menant une enquête historique pour trouver la clé d'une énigme personnelle. Burlesque parce qu'il met en scène et à distance ce combat à l'aveugle pour y voir clair, ses confrontations avec les médecins traitants, dont il enregistre les propos à leur insu, les réminiscences incertaines de sa vie d'avant. Paradoxal, car l'entreprise même de l'écriture de ce livre est un défi à son handicap. Soit il triomphe de sa mémoire défaillante et donne raison au psychiatre, qui le soupçonne de simuler, soit il donne tort à ses médecins et produit un livre illisible. Mauvaise nouvelle, le livre est une réussite magistrale. Voilà, c'était le commentaire des éditions Grasset. L'auteur Marc Greenstein, né en 1961, est éditeur. Il est l'auteur d'un premier roman à l'anglaise chez Calman Levy en 1995. Et donc nous avons exploré ce livre. Nous avons commencé avec deux émissions qui ont précédé celle-ci, autour de trois axes. Le premier étant le constat de l'amnésie. Après, le deuxième, c'était bien une description du pouvoir médical à travers le vécu et le témoignage de l'auteur. Et aujourd'hui, le troisième axe, eh bien, c'est évidemment la confrontation, le défi et la confrontation. En quelque sorte le combat final de l'auteur, qui est aussi donc psychiatrisé, contre l'institution médicale, incarnée ici par le docteur Stanislas, qui est qui est chef de pôle à Bicêtre. Du coup, c'est cette troisième partie que nous allons aborder aujourd'hui. Et avec d'abord un extrait qui montre que tout le contenu de ce livre est un combat. Je ne suis pas un chaman, je ne suis pas un sorcier, je ne lis pas dans le marre de passé. Je ne me consacre qu'au moment présent et j'entrevois parfois le futur. C'est pourquoi je voudrais qu'un huissier authentifie ce fichier, date et heure, informations disponibles sur mon ordinateur. En attendant, je n'y touche plus afin de ne pas modifier ces données et j'en parle à mon éditeur. Alors le fichier, évidemment, il parle de son manuscrit. Et j'en parle à mon éditeur. Qu'en pense-t-il ? Pas emballé. Tant pis, mais je n'abandonne pas l'idée de l'huissier. Installer un office dans tous les établissements psychiatriques à choc. Faire authentifier sa vie avant le début de la cure. Et donc, la suite du récit, des extraits que nous allons vous lire ici, eh bien, ce sera le rendez-vous avec le chef de pôle, où il est censé, enfin, il va lui remettre enfin son dossier médical. En attendant, pour illustrer le côté burlesque aussi que fait ressortir l'écriture de Mark Einstein, on va faire une petite introduction musicale avec les Marx Brothers. Un mardi matin, alors que comme convenu, j'étais en route pour l'hôpital, la secrétaire du professeur Stanislas, le chef de service qui contrôlait contre toute légalité mon accès à mon dossier, m'a laissé un message sur mon portable. Sans aucune explication, elle se contentait de me demander de la rappeler, une nouvelle fois. Ce que j'ai fait aussitôt en arrivant à destination, pressentant une difficulté nouvelle. Ce n'est pas elle qui a répondu, mais une voix masculine très douce, et j'ai raccroché aussitôt, pensant m'être trompé de numéro. Au deuxième appel, j'ai dû me rendre à l'évidence. Sa secrétaire avait dû s'absenter, et Stanislas répondait lui-même au téléphone. Je me suis présenté et j'ai eu l'honnêteté de lui expliquer que c'était moi qui venais d'appeler et qui avait raccroché. Si j'avais su, j'aurais eu la seule honnêteté qui vaille, je l'aurais insulté longuement avant de le frapper. Mais pour cela, il fallait attendre d'être reçu dans son bureau afin de pouvoir l'attacher à son radiateur. Le professeur Stanislas, un des pontes de la psychiatrie française, pas seulement le boss d'un très grand service hospitalier, mais aussi l'ancien responsable du DESS de psychiatrie, l'homme qui a formé ses futurs confrères, ceux qui électrifieront mes enfants et les enfants de mes enfants. Le professeur Stanislas, notre nouveau Jean Delay, notre moderne Cherletti. Après que je me suis présenté, mon interlocuteur a décliné son identité. Il s'agissait en effet du Big Boss. Et en effet, il ne m'a pas dit tout simplement que, comme convenu, mon dossier médical était à ma disposition dans son service. Il m'a juste invité à passer le voir. Disons vendredi, 9h, dans mon bureau. Et il a conclu que sa secrétaire avait beaucoup de travail. Pas son travail de faire des photocopies pour les patients curieux. Je te demande, lecteur somnolent, de considérer soigneusement la situation. Il y a plusieurs semaines, j'ai fait à la direction des usagers une demande encadrée par la loi et qui, selon la loi, ne doit pas prendre plus de 8 jours. Mon dossier complet, remise sur place. J'ai été informé que cette demande était transmise au service de psychiatrie, qui serait désormais mon interlocuteur. Après plusieurs coups de téléphone, normalement inutiles, mais les seuls normalisés dans un HP sont les patients, j'ai fini par recevoir n'importe quoi. Un attrape-dingo, une esquisse de biographie, mais mi-médicale, mi-sentimentale, mais où tout, le médical comme le sentimental, était tordu, déformé, incompréhensible, mais évidemment faux, même pour un sans-mémoire. J'ai rappelé, aimablement protesté. Je n'ai pas rappelé que les 8 jours réglementaires étaient dépassés depuis longtemps et que j'allais saisir les gendarmes du dossier médical, la CADA. J'avais, je vous l'ai déjà expliqué, bien trop peur. De l'ombre de mon psychiatre et de celle de son chef de service. Jusqu'alors, le ponte était en effet une ombre. Je ne me souvenais pas de l'avoir croisé pendant mon hospitalisation et de l'avoir rencontré depuis ma sortie. Très poliment, très doucement, j'ai donc expliqué pour la énième fois à la secrétaire du professeur Stanislas que je souhaitais recevoir un dossier complet. Étrange de constater que le mot « complet » n'a pas le même sens en médecine selon les spécialités. Ou plutôt que les psychiatres et leurs mercenaires ne l'entendent pas du même stéthoscope que leurs confrères cardiologues ou cancérologues. « Qu'est-ce que vous en savez ? Je lis dans votre dossier que vous n'avez aucun problème de cœur et le cancer vous a malheureusement épargné jusqu'à aujourd'hui. » À propos d'épargne, je vais vous épargner, professeur, la liste de mes amis gravement malades. Cardiaques et cancéreux, infarctus, valvules défectueuses, leucémie, mélanome. Même Étienne, renversé par une voiture, jambe droite disloquée, multimal opéré, prothèse qui pète et gravissime infection nosocomiale, a obtenu sans problème dans les 8 jours le dossier complet qui allait lui permettre d'attaquer ceux qui avaient fourni les photocopies, prouvant leur négligence. Voilà, alors fin de la communication téléphonique. Le jour du rendez-vous arrive. Je me suis levé aux aurores pour honorer le rendez-vous bienveillant, bien qu'inutile, du professeur. Je pressentais qu'allait se dérouler une scène décisive et j'ai décidé d'enregistrer notre rendez-vous. Quelques jours plus tôt, j'ai bu un café avec Philippe. Je voulais savoir comment marchait le micro de mon portable. Il m'a montré le mode d'emploi et m'a invité à poser mon téléphone devant moi en le retournant. Je savais que c'était impossible, j'étais sûr que le professeur Stanislas se méfiait et j'avais déjà constaté combien la simple prise de notes plongeait mon psychiatre dans l'inquiétude. Bon, tu le règles avant d'arriver et tu le glisses dans la poche intérieure de ta veste, mais tu bouges le moins possible pour éviter les interférences. Ma crainte, c'était évidemment qu'arrivé au bout de fichiers, l'appareil ne se mette à sonner ou à biper. Philippe m'a rassuré. Je disposais d'une très grande autonomie et mon portable resterait silencieux quoi qu'il arrive. Je venais de voir à la Cinémathèque Blowout, le film de Brian De Palma, où Travolta est un ingénieur du son qui équipe des policiers undercover afin d'enregistrer leurs conversations avec des mafieux. Un soir, un de ces flics, assis dans une voiture entre deux capis, est saisi d'un malaise. Très anxieux, il s'est mis à transpirer anormalement et les électrodes lui brûlent la peau. Il demande à s'arrêter pour pisser, mais est suivi par des truands qui le pendent dans les toilettes avec le câble de son mouchard. Je n'aimerais pas finir pendu dans le bureau du professeur Stanislas avec les fils d'une machine à électrochoc. Je ne suis pas très fier de la méthode, mais pas très sûr non plus du résultat. A raison. Ensuite, je vais un peu plus loin, voilà. On ne trouvera pas ici l'intégralité de nos échanges. Pas le dossier à charge complet. Pour t'éviter de t'assoupir de bon matin, lecteur fatigué, j'ai résumé l'ensemble. En partant des notes que j'avais prises immédiatement après ce rendez-vous, dans mon habituel café du Kremlin-Bicêtre, entre l'hôpital et le métro. Mais je tiens bien sûr à disposition du professeur Stanislas, s'il avait à son tour quelques soucis de mémoire, l'enregistrement complet de notre conversation. Il y a parfois de la friture sur la ligne, mais l'essentiel est parfaitement audible. Ça commence. Début des hostilités, 9h05. C'est le professeur qui m'accueille en personne. Ce n'est pas une marque d'attention, mais madame toute dévouée, je ne comprends à rien de ce que vous me dites, n'est pas encore arrivée. 9h10. Nous nous faisons face autour d'une table, j'espère un café qui ne viendra pas. Si j'étais à cet instant dans le bureau de Bill Gates pour obtenir une faveur ou un boulot, donc dans une situation de faiblesse, il m'offrirait quand même un café. Si j'étais dans le bureau de François Hollande pour l'alerter sur le sort des électrochoqués, il m'offrirait un café. Mais le pouvoir de Bill Gates ou de François Hollande n'est rien à côté de celui du professeur Stanislas. Je n'ai aucune faveur à réclamer, je ne veux pas devenir garçon boucher ou électricien branché, je veux juste faire valoir mes droits. Faire valoir ces droits me place en situation de faiblesse, en danger même. Et pas de café. Au cas où je n'aurais pas compris qu'aux yeux d'un des plus grands psychiatres de France, un patient reste un malade à vie. Qu'il est exclu de rétablir un jour, même après tant d'électrochocs et une longue rémission irréfragable, une relation égalitaire. 9h12. Après quelques politesses emportées, mon hôte vient s'asseoir à côté de moi afin qu'ensemble nous prenions connaissance de mon dossier. Allez, une deuxième pause.
And now the Wilson Wonder Circus presents a sensationally new modern feature. That outstanding star, that exciting personality, Miss Julie Randall.
There's my cue.
Point killer.
Step up and take a bow. Don't be modest, don't be shy. Show that scar of red love in your eye. Step up with grace and pride. Take that step,
isn't she?
Yeah, she's all right. But who ever heard of anyone singing with a horse act?
Well, the audience likes it.
Be gallant. Take a bow.
Suite des extraits donc du livre de Mark Greenstein, Choc. 9h15. Les problèmes commencent. Le professeur a commencé à tourner les pages. Compte rendu infirmier. Pardon. Vous n'en avez pas besoin, ce document est une synthèse. Vous retrouverez ces informations ailleurs. Si, j'aimerais quand même la voir. Je sens une intense crispation. 9h17, les ennuis continuent. Scanner cérébral, photocopie un peu plus difficile à faire. Il est normal, êtes-vous sûr d'en avoir l'utilité ? Oui, je veux aussi le scanner. Est-ce qu'il a été réalisé avant ou après les chocs ? Avant. Bon, en fait, vous voulez vraiment tout ? Oui, docteur, j'ai demandé un dossier complet. 9h20, début d'explication. Mr. Stanislas retourne à sa place, ferme les yeux quelques secondes et attaque. Expliquez-moi pourquoi vous avez besoin de ce dossier. Je devrais le renvoyer à ces cochons mussoliniens, à ces chiens sadiques anneaux, à l'histoire pathétique de sa pratique d'élection. Je réponds doucement. C'est pour écrire un roman. Le docteur Durafac ne vous a rien dit ? Alors je rappelle que le docteur Durafac, c'est le psychiatre donc de Mark Einstein. Voilà. Donc il ne vous a rien dit ? Non, rien du tout. 2 semaines plus tôt, mon psychiatre, à qui je reprochais de n'avoir reçu qu'un document inepte, me conseillait de téléphoner à la secrétaire du professeur Stanislas. Depuis des mois, à chaque visite, il me mettait en garde contre les dangers d'un tel livre. J'ai appelé plusieurs fois. Hardi psychiatre, cochon de malade mentaux. Et je devrais avaler, à défaut de café, que le chef de service n'est pas informé de mon projet. Si je devais faire un sort au choc, j'en aurais fait une deuxième phrase. J'aurais en fait une deuxième phrase. Même après une cure, on continue de vous prendre pour des cons. Non, pour des cons, c'est avant les séances. Après, plutôt comme des déficitaires, des malades en situation de minorité. Bon, je suis condamné à faire semblant de croire à ces mensonges laborieux. Donc ce mensonge que le docteur Durafac ne lui a soi-disant rien dit du tout. Un roman sur quoi ? Sur l'hôpital et les électrochocs. Il ferme une nouvelle fois les yeux, prend une inspiration profonde. Je n'ai pas devant moi un électrocuteur, mais un sage bouddhiste. Un psychiatre zen qui me donne à comprendre qu'il ne prononce pas une parole, qu'il ne prend pas une décision, qu'il ne presse aucun bouton sans avoir longuement médité. Peser le pour et le contre. Je dois comprendre qu'il ne grille aucun neurone sans relire les œuvres complètes du Dalai Lama. Si vous croyez que les psychiatres soviétiques, eux, faisaient des pèlerinages à Lhasa, vous vous laissez abuser, mais le Kremlin Bicêtre devrait être rebaptisé Karma Bicêtre. Cher lecteur interloqué, tout ceci est bien sûr de la blague. Je bricole l'harmonie, j'invente des accords, j'empile des variations sur des échelles verticales. Mais la mélodie, la ligne mélodique, la succession des notes dans le temps, leur contenu, leur chronologie et leur durée, tout ceci est exact. Et dans un pareil échange, la mélodie importe plus que les harmoniques. Attention, après les pseudo-accords parfaits du début déboulent ces dissonances que j'aime tant en musique et moins dans la vie. Même si ces dissonances sont de la chair à romancier, à canon de romancier. C'est bien pour elle que j'essaie d'enregistrer mon psychiatre méditatif. 9h30, les pyjamas brûlent. Je suppose qu'il ne s'agit pas d'un roman en faveur des électrochocs. Bingo. Bingo est étrange. La littérature est pleine de récits hospitaliers dont les auteurs racontent leurs opérations sans pour autant dénoncer leurs médecins. Alors, là, il donne des exemples. L'exemple d'Artaud. Mais je passe, parce qu'il y a encore beaucoup à lire. Comment le professeur Stanislas peut-il craindre d'emblée que j'attaque les chocs et ceux qui les pratiquent ? À moins que mon psychiatre ne lui en ait parlé. À moins que, les yeux clos et l'esprit collé au plafond de la salle de réanimation, il n'éprouve parfois un léger doute, je pense pour la première solution. Je crois même que c'est l'unique explication. Je lui réponds qu'en effet, ce livre sera pour l'essentiel consacré aux trous de mémoire provoqués par les électrochocs. Suivent plusieurs minutes d'enfumage total. Ces troubles ne seraient pas scientifiquement démontrés. et il est habitué à ces critiques infondées. Attaque injuste et dérisoire dirigée pour l'essentiel par l'église de Scientologie. Je connais par cœur ces arguments appuyés sur les vieilles études que mon psychiatre me resserre à chaque fois. Docteur, je ne suis pas scientologue et je ne sais pas si mes trous de mémoire sont scientifiquement établis, mais je sais qu'ils sont très invalidants. Pour la scientologie, je ne sais pas. Si j'ai oublié pendant un temps que j'étais juif, je peux avoir oublié que je suis scientologue. J'ai lu toutes ces publications antipsychiatriques de l'église de Scientologie. Elles émanent d'un phoné baptisé le Centre de protestation contre les abus de la psychiatrie ou quelque chose comme ça. J'y ai puisé quelques éléments historiques, mais ils baignent dans un fond de sauce étrange et vite inquiétant qui m'a refroidi. Je me suis alors concentré sur les sources médicales où j'ai retrouvé les mêmes informations. Je voulais être incontestable. Pour l'être totalement, de retour à Paris après mon entretien, j'ai appelé Pierrot et Denis, qui me connaissent depuis longtemps. Excusez-moi pour cette question saugrenue, mais ai-je un jour été scientologue ? Je peux m'assurer qu'à la sortie de ce livre, je veux m'assurer qu'à la sortie de ce livre, il ne pourra être balayé d'une rafale. Monsieur Greenstein est un membre ancien de l'église de Scientologie qui avance à couvert. Ce prétendu roman est donc l'expression d'une idéologie dangereuse, nulle et non avenue. Denis. Scientologue ? Mais tu es fou ! Ben oui, un peu. Pierrot. Scientologue ? N'ayez pas peur, dites-moi la vérité. Ben, pas à ma connaissance. Scientologue occulte, peut-être, disons même scientologue occulté. Ça vous inquiète ? Non, à la réflexion, ça ne m'inquiète plus. Et la prochaine fois qu'il me traite de scientologue, je lui répondrai, c'est décidé, que « Docteur, je ne suis pas et n'ai jamais été scientologue. » Par contre, j'ai une amie proctologue, disons que je suis scientologue par contamination. Non, je lui expliquerai que je suis kremlinologue. Je raconte à Mr. S. les épisodes que j'ai déjà narrés à mon psychiatre et dans ce livre « Lecteur patient ». Et je lui répète aussi, pardonne-moi ces répétitions, que dans toutes les études récentes que j'ai lues, je les ai toutes lues, les risques mnésiques sont signalés, qu'il est souvent expliqué que ces troubles reculent en général rapidement, mais que parfois ils demeurent à demeure. Pas de base scientifique, des plaintes subjectives. Parce que docteur, vous êtes en mesure de m'expliquer scientifiquement les effets soi-disant positifs des chocs ? Non, il n'est pas en mesure. J'ai l'impression que mon chef de service n'a même pas lu l'intégralité de la littérature sur le sujet et qu'il me resserre de vieux éléments de langage. Oui, tout est vieux chez lui. Je lui fais remarquer, et je ressasse encore, mais je n'ai pas le choix, que le minable feuillet d'informations remis au patient pour qu'il donne son accord éclairé est conforme à une directive ANAES de 2000. Que depuis, la recherche a légèrement progressé et notamment la prise en compte des effets secondaires sur la mémoire essentiellement. Que l'ANAES n'existe plus, remplacée par la Haute Autorité de Santé, et que ces documents d'information sont aujourd'hui différents d'un établissement à l'autre. Ce qui prouve que cette pseudo-directive est bien le cache-misère d'un idéologue obstiné qui n'hésite pas à abuser ses patients. 9h45, revendication patiente. Ce feuillet ressemble en effet à de la publicité mensongère. Mais il ne relève pas du BVP, le Bureau de vérification de la publicité. Plutôt des tribunaux. Docteur, la Cour de cassation est claire à ce sujet. Tout effet secondaire, même exceptionnel, doit être porté à la connaissance du patient. L'exceptionnalité ne doit pas être une circonstance exonérante. Encore une fois, la littérature récente sur le sujet est unanime. Même chez les apôtres des chocs, on constate parfois des atteintes cognitives sévères. Vous aviez le devoir de le signaler, pas seulement d'inviter vos malades à noter leur numéro de carte bleue en affirmant catégoriquement que ces quelques troubles cèdent rapidement, au plus tard, en quelques mois. Mon chef de service me regarde fixement, des regrets plein les yeux, ceux de m'avoir loupé. Ce regard signifie « la prochaine fois, il ne me loupera pas ». Je ne te louperai pas ne signifie pas je ferai attention à ne pas te blesser ou je prendrai garde à toi. Je ne te louperai pas veut dire mon gars, prends garde à toi. La prochaine fois sera la bonne. Vous savez, monsieur Greenstein, vous êtes le deuxième patient à avoir ce genre d'attitude.
Ce genre d'attitude ?
Oui, le premier nous a fait un procès.
Je n'ai pas l'intention de vous faire un procès.
Pour le moment, non.
Voilà pourquoi votre fille est muette, votre fils amnésique et votre dossier médical complet enfermé dans un coffre-fort ou un souterrain à hygrométrie constante.
10 heures, tir de barrage.
The professor se lève et s'assied devant son ordinateur. Après quelques minutes de silence, il se rend à l'évidence. Son feuillet d'information est digne de verbigération scientologue. Un tissu d'ânerie quasi-sectaire, la secte des électrochoqueurs radicaux. Enfin, ce ne sont pas exactement ses propos, j'ai encore une fois résumé. Comme mon avocat me rappelle à l'ordre, je vais restituer ici l'exact produit de 5 minutes de réflexion intense devant un document qu'il a pourtant rédigé et qu'il paraît découvrir. Il s'agit déjà d'un événement.
Vous avez raison, les cas comme le vôtre n'ont pas de place ici. Peut-être aurions-nous dû les prendre en compte.
Le tremblement de cerveau est à venir.
Mais vous êtes à l'extrémité de la courbe.
Il reprend sa place face à moi.
Si je suis à l'extrémité de la courbe, j'apprends que je suis aussi en bout de course, dans les cordes, compté jusqu'à 10, mis KO par le champion du monde du plus petit poids dans la tête, Big Prof Senior. C'est dans le catch que les cordes élastiques vous repropulsent au milieu du ring. Là, le match est fini, et je suis comme un vieux boxeur qui a pris trop de coups sur la tête. Je ne baffe pas encore, mais non, on n'en est pas loin.
Car le prof ne conteste plus rien. Il m'accorde que les chocs ont provoqué des troubles graves et persistants, mais qu'il serait inutile de s'agiter, de contester, voire d'ester en justice.
10h10.
Oui, à quoi bon ? Car ses troubles sont maintenant fixés et il est à peu près exclu qu'il s'améliore.
Il est trop tard. De toute façon, il n'y avait rien à faire. Dixit définitif, le souverain pontife.
Une bombe larguée paisiblement, à déflagration lente, à perforation profonde.
Two blind loves. Two blind loves, do we know what we're doing? Two blind loves.
Je suis face au général S. Le général S a une mission à remplir et peu importe les pertes humaines.
On m'a chargé d'électrifier la France qui souffre, je ne faillirai pas.
The day that I looked into your eyes and you looked into mine. Two blind loves, babes in the wood. We've got it all so bad, but isn't it good? We're on a bumpy road, it's true.
J'ai très envie d'un café. J'explique qu'il s'agit bien d'un roman parce que ce livre est rempli, je l'espère, d'effets burlesques.
10h20. Vis comica. Mon commensal décaféiné se renfrogne.
Je ne comprends pas le sens du mot burlesque.
Burlesque, ça veut dire que j'essaie d'amplifier certaines scènes de façon comique.
Je ne vois pas ce qui est comique ici.
Le pire, c'est qu'il a raison.
Plus de raison d'espérer, saute par la fenêtre.
Un patient qui se défenestre dans le bureau du boss de la psychiatrie française.
Ça ferait son effet, non ?
Écoutez, je pars d'un fait réel. J'ai subi des électrochocs et je souffre de trous de mémoire. À partir de là, je construis parfois des situations que j'espère drôles. Très drôles même, exagérées.
Dans quel but ?
Pour faire rire le lecteur.
Pourquoi faut-il absolument faire rire le lecteur ?
Si je vous dis pour me faire rire moi-même, vous comprenez ?
Pour m'alléger, pour réussir à survivre.
Il ne répond pas, rentre son cou dans sa blouse.
Le tireur d'élite se prépare à tirer. Du gros calibre, 12,7 mm au moins. Il faudra que je fasse la conversion en volts, en ampères et en coulombs. 10h30, gros calibre. Je me contenterai d'un verre d'eau et j'ai envie de pisser. Mais la fin approche. De toute façon, vous avez un gros problème narcissique. Comme une balle dans la tête. Et ce problème narcissique ne date pas d'hier. La première phrase tire le cerveau hors de la boîte crânienne, la seconde le lamine avant qu'il ne se rétracte. Il vous reste un petit bout de cervelle au fond du crâne, quelques opérations de routine vous sont encore possibles. Comptez le nombre de pas qui vous séparent de la fenêtre, essayez d'apprécier de loin la hauteur, évaluez vos chances d'y rester. J'ai bien pensé à ce moment à mes chances d'y rester. Mais une troisième déflagration troue le silence. Vous vous prenez pour le centre du monde. Voilà un sniper qui affirmait tout à l'heure ne pas bien connaître mon cas et qui se trahit dès la deuxième balle. Pas d'hier. En réalité, si je ne veux pas me jeter sous un bus à défaut de vol plané, je dois me convaincre du contraire. Ce pas d'hier ne veut rien dire. Il ne démontre pas une connaissance approfondie de mon cas, une relecture attentive de mes dossiers avant notre rendez-vous. Ce n'est qu'une balle explosive qui dope la puissance du fusil. Ne va pas, ne vis pas, meurs et deviens poussière. Je ne sais pas si les thérapeutes arrivent toujours à faire taire leurs affects, s'ils doivent masquer les sentiments négatifs qui ne peuvent manquer de les envahir au fil des séances. Peut-être s'en servent-ils comme les catcheurs des cordes élastiques qui entourent le ring. Dans le cas qui nous occupe, les sentiments négatifs ont envahi le psychiatre emporté par une pulsion mauvaise. Vous n'entendez pas les malades qui me remercient après les chocs ? Ben non, docteur, le coup de grâce m'a également arraché les oreilles. Vous ne voyez pas les familles des malades qui viennent me remercier après les chocs ? Ben non, professeur, je ne vois plus rien. Je suis de bonne volonté et je manque d'être ébranlé une seconde. Quand je me souviens soudain d'un argument que j'ai oublié d'introduire à sa place mais qui trouvera tout son sens ici, maintenant qu'il est question des malades reconnaissants et des familles prosternées dans le bureau du grand homme. Tout à l'heure, il m'a accordé du bout des lèvres que, oui, je souffrais de troubles mnésiques importants. Il m'a aussitôt rassuré en m'expliquant que, pour moi, les carottes de la mémoire étaient cuites. Et il a ajouté ces phrases aggravées au fronton du KB, Kremlin Bicêtre. Oui, je conçois que ce soit un souci pour vous. Mais si vous étiez, je ne sais pas, disons, manutentionnaire chez Amazon, il n'y aurait pas de problème. Là, Denis, disciple de Bourdieu, n'en croit pas son psychiatre. Il écarquille les yeux. Non, il ne t'a pas dit ça. Si, si, authentique, gravé dans le marbre numérique. Incontestable. Dans la mort psychique peut triompher la vie ordinaire, simple et tranquille, celle du manutentionnaire d'Amazon. Alors, suite de l'entretien. Il semble soudain bien là et il se lève pour mettre fin à l'entretien. 10h45, un chapitre qui pourrait s'appeler Laurel et Hardy. Il se rapproche de moi. « Bon, j'ai compris que vous vouliez tout. »« Oui, tout. »« Le pain et ses trois farines, le petit déjeuner croissant, baguette, beurre et confiture. »« Les ECT, les ECG, les ECB, les scanners cérébraux, les radiopulmonaires, les panoramiques dentaires, les travelling le long des synapses, les plans serrés sur les neurones, les photos du plateau technique. » La durée des crises, la puissance du courant, les vérifications infirmières, les notes des médecins, même les ordonnances. Un Greenstein, enfin, complet. Au moment de prendre congé, j'ose une question. Au fait, savez-vous combien d'ECT vous réalisez chaque année ? 3 balles dum-dum dans le crâne et ce con bouge encore. Non, je ne sais pas. Vous voulez parler du nombre de patients choqués ou du nombre total de chocs ? Disons les deux. Disons 600, environ. 600 quoi, je l'ignore et je comprends que je n'obtiendrai rien de plus. Environ. Cet homme est un charlot. Pourquoi cet homme me fait-il penser à Christian Clavier, l'idole de Philippe ? À ce moment-là, alors qu'il me serre la main et ajoute que je ne dois pas être pressé car sa secrétaire n'a pas que mes photocopies à faire, je comprends pourquoi j'ai eu l'idée d'une mise en scène burlesque de mon expérience électrique. Pourquoi je ne peux voir mon chef de service sans penser à un comique ? Certes, il a l'étoffe d'un grand. Je n'ai pas compris tout de suite pourquoi il me faisait penser à un acteur comique, au moins autant qu'à un curé. À Stan Laurel, en tout cas, à cause de son nom, mais surtout de son teint de craie et de sa maigreur élastique. Avec sa façon de pleurnicher aussi, même si sa mauvaise volonté doucereuse, son autoritarisme onctueux, ses poses de martyr prêt à mourir pour que vive le DSM-5 et toute sa descendance, ses petits-enfants et les enfants de ses petits-enfants, disons jusqu'au DSM-30. Même si rien de cela ne prêtait vraiment à rire, Clavier Laurel, je brûlais sans trouver.
Don't know fish from steak.
Don't know if it's a donut or a wedding cake. I only know the sun started to shine the day that I looked into your eyes and you looked into mine.
Two blind loves, babes in the wood.
But isn't it good? We're on a bumpy road, it's true, but heaven is in view.
For the benefit of those who haven't retired.
À la fin de l'entrevue, le grand médecin avait changé de visage et de discours, se muant en expert psychiatre madré. C'est pourquoi j'avais essayé d'écourter notre réunion en enfilant fébrilement mon dossier dans son enveloppe Kraft, puis en l'enfournant dans mon sac à dos. Mais Stan continuait de vaticiner. Après m'être soulevé deux ou trois fois sans parvenir à interrompre Stan, je me redressais brutalement en tapant doucement sur son bureau. Oui, une petite tape pour un petit bruit. Si j'avais frappé plus violemment en m'écriant « Bon, professeur Stanislas, à cette foutaise, je vous adresserai prochainement une liste d'ouvrages à lire absolument. En attendant, au revoir. Je vérifierai que mon dossier est complet en arrivant chez moi. Et s'il manque encore des pièces, je rappellerai votre secrétariat pour qu'on me les envoie. Merci de bien vouloir donner votre accord par anticipation afin que vous et moi, nous ne perdions plus de temps. Enfin, surtout moi, puisque c'est vous qui avez décidé d'obstruer. » Si donc j'avais choisi de ricaner à mon tour en percutant le bois, puis tourner le dos en jouant sur mon téléphone et claquer la porte, j'aurais probablement disparu dans un sous-sol du service. Là où sont confinés les psychotiques cannibales auxquels on jette en pâture les patients réfractaires. Après tout, jolie fin pour un maniaco-dépressif suicidaire que de mourir utile. Et j'imaginais Stanislas ricaner encore. Monsieur Greenstein, mes grands psychotiques, ne font jamais la grève de la faim. Mais vous le savez maintenant mieux que moi. Vous pensez que j'exagère, que ce Stan, s'il a dirigé un tel service, ne peut être qu'un brave homme voué à l'amélioration des malades mentaux et que je tire à la ligne pour satisfaire mon obsession anti. Oui, au moment où j'écris ces lignes, plusieurs années ont passé et je viens d'avoir la confirmation que Stanislas nourrit désormais à mon égard des sentiments joviaux. Mon psychiatre, le docteur Durafac, souhaite m'hospitaliser pour un check-up. Trop de médicaments avalés d'une même gorgée, les ordonnances d'un petit vieux chez lui, tout commence à lâcher, tellement d'effets iatrogènes, sans compter les douleurs anormales, pas les psychogènes, que je reconnais facilement, les autres, les symptomatiques, celles qui reviennent identiques, et dont le DSM ne dit pas un mot. Sans doute rien, mais mon psychiatre aimerait faire le point. Monsieur Gunstein, je pense vous hospitaliser à la clinique des tricoteuses. Mi-janvier, vous n'y voyez pas d'inconvénient ? Je n'ai rien, vous le savez, contre la maille, mais cette clinique où j'ai passé mes semaines de convalescence est d'abord un établissement psychiatrique incapable de pratiquer des bilans biologiques, tous confiés à l'extérieur. Pour des examens plus complexes, je devrais être trimballé en ambulance dans les patelins de la région. Monsieur Greenstein, c'est un établissement confortable où vous pourrez travailler tranquillement. Travailler ? Oui, finir votre roman, au cas où il vous resterait quelques pages à boucler. Mon psychiatre espère-t-il que je vais lui dédier mon livre aux côtés de Philippe Roth et de Pierre Boulez ? Ou lui consacrer des remerciements particuliers ? Philippe I et Philippe II sont d'accord. Ils redoutent d'être épinglés aux côtés du distingué Ferdière, de l'immortel Delay et de Stanislas. Je n'ai pas trouvé l'épithète adéquate. Il s'agit bien de se retrouver du bon côté, mais je n'oublie pas que, quelques mois plus tôt, face à un accès dépressif, il m'avait déjà proposé une hospitalisation à Sainte-Anne. Il ne m'a pas demandé si j'avais gardé de bons souvenirs de ma première hospitalisation. Parce qu'il n'en a pas eu le temps. Docteur, je vous ai expliqué ce que je pensais du docteur Décru. Si jamais je retombe entre ses mains, il va m'en faire effroyablement baver. Je ne pensais pas à son pavillon, répond-il. J'ai une très bonne amie qui travaille dans un autre service. Je vais la contacter cet après-midi. Et bien sûr, il s'agit d'une nouvelle cure d'ECT. Oui, je rappelle que ECT, ça veut dire électroconvulsivothérapie, fin de la parenthèse. C'est à ce moment que Durafac, jeune chef de pôle ambitieux, sympathique et courtois, beaucoup plus intelligent que tous les psychiatres que j'avais rencontrés, parlant doucement, répondant à ma question sans trop barguigner, a perdu toute chance de devenir le psychiatre de Philippe Roth et de Pierre Boulez, et avec eux, celui des grands artistes vivants. Je passe un peu plus loin pour la conclusion et qui se trouve ici. Voilà, le dernier paragraphe, ou disons la dernière série de paragraphes. C'est Pierre Raoul, le plus cinéphile de tous mes amis, qui a résolu l'énigme. Je crois avoir trouvé pourquoi le professeur Stanislas te fait tellement penser à Laurel et Hardy. C'est bien autre chose qu'une question de patrimoine. Je viens de revoir un de leurs moyens-métrages intitulé « Laurel et Hardy, électricien ». Non, pas possible. Si, je t'assure. En fait, ils n'exercent pas ce métier qui t'est devenu si cher. Mais ils ont ouvert un magasin de luminaires. Ah, des éclairagistes. Au moins, ce sont des gens inoffensifs. D'autant plus qu'Hardy passe plus de temps à draguer sa voisine et à échapper au mari qu'à s'occuper de ses affaires. Et pendant ce temps-là, un petit bonhomme étrange et poli passe le film à vider le magasin, d'abord avec une brouette, puis avec une charrette, et enfin avec un camion, sous les yeux intrigués des propriétaires. Et à la fin, le magasin est entièrement vide. Hardy se bat avec le mari et la ruine menace. Allons chercher une brouette, ça devrait suffire pour un premier sismotaire. « Voilà, on écoute l'entonnoir et je viens de donc vous lire des extraits du livre de Mark Greenstein, Choc. Un dernier commentaire sur cet ouvrage. Eh bien, il y a donc cette difficulté à expliquer les choses tout en étant amnésique et en même temps avec une volonté, une exigence de relater les faits de façon objective. Enfin, il y aura les faits qui seront révélés de façon objective et des extrapolations complémentaires complètement subjectives, évidemment. Des dialogues réels et des dialogues imaginaires. Mais toujours une critique de la psychiatrie par l'auteur, en tout cas de la psychiatrie qu'il a connue. Témoignage de ce que les électrochocs sont la cause de ses amnésies contre les arguments du psychiatre. En effet, je vous avais lu la dernière fois c'est-à-dire la fois d'avant, le petit fascicule qui est présenté à chaque futur électrochoqué avant le choc, donc relatant que les effets secondaires étaient minimes. Je peux aussi lire des choses qui sont à la fin du livre. Ce qui sont des commentaires de scientifiques eux-mêmes sur les ECT. Alors, c'est un recueil de plusieurs citations intitulées par l'auteur « Si vous croyez que les psychiatres ont le temps de lire ». Alors, premier commentaire. « L'ECT est reconnu pour induire des modifications structurales et fonctionnelles de longue durée, mais les bases biologiques qui sous-tendent ces modifications sont encore mal connues, dans la mesure où, dans certains cas, les effets antidépresseurs de l'ECT s'accompagnent d'une interférence transitoire mais désagréable avec le fonctionnement de la mémoire. La question d'une possible dichotomie entre les bases biologiques impliquées dans les effets recherchés et secondaires de l'ECT se pose. Identifier et caractériser les bases biologiques qui sous-tendent les effets des ECT sont des étapes nécessaires pour modifier les traitements dans le but d'atteindre une meilleure efficacité et une diminution des effets secondaires. M.F. Suo-Chani à Andrieux, J. Brunelin, les bases biologiques des effets des ECT, l'apport des modèles animaux. Autre citation des mêmes auteurs. Le principal effet secondaire de l'ECT est l'induction pour certains patients d'une amnésie plus ou moins durable. En fait, la plupart des mécanismes sous-tendent les effets bénéfiques des ECT. Sous-tendant les effets bénéfiques des ECT, ont été soupçonnés d'être impliqués dans les effets délétères induits sur la mémoire. Les recherches sur l'amnésie rétrograde suggèrent qu'elle pourrait être due à l'envahissement du lobe médio-temporal par la crise, avec l'implication particulière de l'hippocampe, siège de différents mécanismes impliqués dans la mémoire. Alors, autre citation. Le relais discrédit de l'ECT, en dépit de sa grande efficacité et d'une tolérance améliorée par les conditions actuelles de son administration, repose en partie sur notre ignorance de ses mécanismes d'action à la différence des médicaments psychotropes. à Galinowski, excitabilité corticale et ECT, la théorie de l'effet anticonvulsivant. Autre citation de ce A. Galinowski. Le seuil convulsivant correspond à la charge électrique minimale qui déclenche une crise généralisée de durée suffisante. Ce seuil, qui peut rester stable mais ne diminue jamais, augmente en moyenne de 40 à 100% pendant la durée de la cure de CT. Alors que la mesure du seuil à la première séance varie en fonction de la morphologie de la boîte crânienne, les mesures suivantes chez un même patient représentent la résistance croissante à l'induction d'une crise. Une citation maintenant deux citations de J. Holzman, Imagerie médicale dans la compréhension des mécanismes d'action de l'ECT. Première citation. Bien que l'électroconvulsivothérapie, ECT, soit le traitement le plus ancien utilisé de nos jours, SIC, la question des mécanismes d'action sous-tendant ces différents effets thérapeutiques est encore aujourd'hui très ouverte. Deuxième citation. Les effets de l'encéphale ont longtemps suscité des questionnements alimentant la crise que ce traitement puisse avoir des effets lésionnels sur le plan structurel. La crainte que les troubles mnésiques secondaires à l'ECT ne soient liés à une altération organique reste encore présente, y compris dans le corps médical. Et ainsi de suite. Un autre plus loin. Il est bien établi que l'ECT altère les capacités cognitives. Il s'agit aujourd'hui de son effet indésirable le plus fréquent et le plus limitant pour son utilisation thérapeutique. Les travaux montrent généralement que ces altérations ne persistent pas au-delà des premières semaines ou rarement les premiers mois suivant la cure. Pourtant, certains patients se plaignent de difficultés cognitives sur le long cours qui interfèrent avec leur vie sociale et professionnelle. L'étude systématique des troubles cognitifs liés à l'ECT n'est pas simple non plus. Il n'est pas possible d'administrer ce traitement à un groupe contrôle sain. C'est signé L. Lalanne, J. Elove, J. M. Dagnon, P. Vidalier et ECT et cognition. Alors, voilà, je vais en rester là. Donc, on pourrait penser que ce livre ne sert à rien et que ça pourrait être un coup d'épée dans l'eau pour moi. Au bout du compte, à l'issue de cet ouvrage, je pense que l'auteur parvient, enfin je crois, à travers ce témoignage, parvient à prouver, à démontrer que les dégâts des ECT sur sa mémoire sont irréversibles et ne sont pas, comme le discours soignant le prétend, des pertes de mémoire qui se dissipent au bout d'un mois ou deux. Qu'il soit édité, donc ce livre, permet aussi de diffuser une pensée à contre-courant des certitudes établies autour des électrochocs. Voilà, ainsi se termine l'entonnoir pour cette semaine. Nous vous disons au revoir. Nous allons retrouver Un rayon de soleil, une émission de Radio Libertaire Méditerranée.